La conférence de ce soir va porter sur la force vitale. C'est presque un débat naturopathique type. On va vous expliquer pourquoi nous croyons à la nature et à la force qui nous anime, à la vie. Alors que les médecins matérialistes pensent qu'il faut intervenir à tout prix pour arriver à modifier un peu le comportement humain, surtout en cas de maladie. Et la thèse matérialiste est simple. Lorsque vous êtes agressé de l'extérieur par un froid, par le froid, par la fatigue, par un microbe, une maladie se déclare, bien localisée, laquelle va s'étendre et se généraliser pour vous tuer si personne n'intervient. Ce qui fait que tout le monde court chercher n'importe quelle médecine pour se soigner. Alors, en cours de route, il y a des succès pour toutes les médecines, et puis il y a d'énormes échecs pour toutes les médecines. Alors, les naturopathes ont pensé autrement. Je parle des naturopathes orthodoxes. Je ne parle pas ceux qui font de la médecine physique. C'est autre chose. Les médecins et physiciens sont des allopathes qui, au lieu d'utiliser des médicaments, utilisent des agents physiques. C'est mieux que la chimie. La physiothérapie est mieux que la chimiothérapie. Mais malgré tout, ils gardent l'optique de la maladie locale sur diagnostic et traitement répressif des symptômes qui inquiètent. Alors que vous allez voir tout à l'heure, en cours de ce développement, que la plupart de ces symptômes qui nous inquiètent ne sont pas des ennemis, mais des amis qui aident à l'auto-guérison, vous expliquera le mécanisme. Ça, c'est le point qui nous sépare de l'enseignement officiel. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, nous ne sommes pas des matérialistes, nous sommes des spiritualistes et des vitalistes en particulier, et nous pensons que la vie se surajoute à la matière, que la vie est mal connue, mais qu'il ne faut pas la faire descendre dans la matière pour pouvoir l'expliquer ou l'analyser. Il y a des lois biologiques qui échappent aux lois physico-chimiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que l'organisme, lorsqu'il est malade, a ce qu'il faut pour guérir, au nom de l'organisation qui le domine. Ainsi, lorsque vous venez au monde, il y a deux éléments, deux germes qui s'unissent et puis qui se développent. Et puis qui se développent correctement, suivant un programme chromosomique très précis et très au point. Fait de petits bâtonnets, de petits gènes installés sur un grand long ruban. Je crois que ce long ruban fait une distance formidable. Je ne voudrais pas dire d'erreur, mais on m'a parlé du tour de la Terre, je crois. Vous voyez le petit peloton de gènes que vous avez à l'intérieur de la cellule microscopique qui est toute petite. Lui jamais la vie. Donc là est inscrit tout votre passé et tout votre avenir. Et penser que d'une chose si petite peut résulter une telle organisation pour l'avenir est quelque chose de merveilleux. Et les enfants grandissent, les enfants se développent, nous devenons adultes, puis nous acquérons tout un tas de qualités. Ça n'est pas par des médicaments ni par de la chirurgie. Il faut même souhaiter qu'on intervienne le moins possible et que nous ayons tous des gènes de qualité. Si donc dans l'organisme existe une force autoconservatrice d'autodéveloppement, nous raisonnons tout simplement, nous pensons qu'il existe également une force d'auto-guérison. C'est-à-dire que tout sujet étant malade, se trouvant en mauvaise posture physiologique, s'il sait se reposer sur le plan du corps et de l'esprit, il va nécessairement mettre en jeu cette force d'auto-guérison qui veut que l'organisme vivant ne meure pas. Sinon Dieu se serait contredit. Si à la fois il faisait un organisme pour vivre et un organisme destiné à mourir, hein, et en espérant la découverte parmi nous de savants en médecine ou en pharmacie pour sauver la situation, eh bien Dieu aurait commis une énorme bêtise en quelque sorte. Il n'a pas à s'occuper de nos entreprises. Et d'ailleurs il ne s'en occupe pas pour les animaux. Nous avons des preuves d'auto-guérison partout, partout, partout. Encore chez nous à la campagne, l'autre jour, là, notre chatte a fait 3-4 petits. Dans ces 3-4 petits, qu'on a pu attraper qu'à la dernière limite parce qu'ils étaient sous des traverses dans un grenier avec du foin, on n'a pas pu y aller. Eh bien, les petits ont été très malades puisqu'ils étaient tombés des toitures. On n'a pas pu l'approcher, ils se sont fuyés dans les bois. Eh bien, toute la bande de cette chatte, toutes les bandes de ces petits chatons ont récupéré, ils sont tous très beaux. Ils se sont sauvés uniquement sans intervention. Alors, bien sûr, on aurait appelé le vétérinaire, on les aurait attrapés. Le vétérinaire les a soignés, il se peut aussi que le vétérinaire les eût sauvés. Mais en vérité, la nature a fait son travail correctement. Donc l'auto-guérison est un phénomène qui existe. Vous en avez la preuve chaque jour. Je parle souvent de fois de la cassure. Quand vous vous cassez un membre, ce n'est pas le plâtre qui guérit. C'est votre l'activité de votre périoste qui fait la soudure. Et vous pourriez rester immobile, sans plâtrage. Ce qu'il faut, c'est rester immobile pour permettre aux deux os de se coller. Donc vous n'avez pas à penser que c'est le plâtre qui va guérir. Je pense aussi d'une coupure, d'une plaie, ce n'est pas ce qu'on met dessus qui va guérir. C'est simplement l'activité du derme et de la couche basale qui va faire la cicatrisation, qui va vous guérir. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de remède. À chaque fois, c'est l'homme qui se guérit, mais ce n'est pas le remède qui guérit. Et tout le monde cherche sans arrêt la vertu guérisseuse qui se trouve dans les remèdes. Elle n'est pas dans les remèdes, elle est dans l'homme, à tel point que l'un dira, moi ce remède, numéro 1, m'a réussi, le numéro 2 m'a pas réussi. La bonne femme d'à côté dira, c'est le 2 qui m'a réussi, c'est pas le 1. En vérité, elles ont oublié l'une et l'autre, que c'était en elles que se donnait le pouvoir guérisseur, c'est-à-dire auto-guérisseur. Alors nous autres, que pouvons-nous faire? C'est de comprendre comment fonctionne ce pouvoir auto-guérisseur et d'aller dans le sens de ce pouvoir auto-guérisseur. C'est ce que Hippocrate appelait « sequare naturam », ça veut dire « suivre la nature ». Il disait « l'homme doit être le ministre du corps et non pas le dictateur du corps ». Et la médecine officielle fait un peu la dictature du corps. Et nous, nous sommes des ministres du corps. « Sequare naturam », suivre la nature. Alors, comment peut-on aboutir et expliquer relativement scientifiquement, bien que je n'aime pas ce mot, rationnellement, je préfère, comment pouvons-nous expliquer rationnellement cette force qui nous fait durer et qui nous fait nous auto-guérir, chaque matin d'ailleurs, et puis en certaines circonstances, de manière beaucoup plus importante. Eh bien, grâce à cette force vitale dont nous allons débattre ce soir avec vous. Qu'est-ce que cette force vitale? Eh bien, la force vitale, c'est la masse de vie que nous avons en nous, et qui lutte contre la mort. La définition n'est pas moi, elle est de Bichat. Je vous la donne pour telle. On ne peut pas trouver une meilleure. C'est toutes les forces qui résistent et qui luttent contre la mort. Alors, où peut-elle nicher cette force-là, cette force vitale? Eh bien, nous l'avons placée, nous, dans le système nerveux et les glandes endocrines. Vous savez que nos glandes endocrines, les principales, sont l'hypophyse, qui se trouve à la base du cerveau, la thyroïde, qui est à la base du cou, le thymus, chaque côté, les parathyroïdes, chaque côté, le thymus un peu plus bas, puis nous avons les capsules surrénales, le foie, intervient aussi en tant que glande endocrine, et les organes génitaux, les glandes génitales. Voilà à peu près les différentes glandes qui emmagasinent, à notre sens, nos naturopathes, la force vitale. Et cette force vitale est distribuée par le système nerveux. Le système nerveux est surtout parasympathique et orthosympathique, lequel relie tous les organes entre eux en partant du bulbe. Le bulbe, c'est le centre du départ de l'orthosympathique, lequel descend dans la colonne vertébrale, lequel s'échappe à chaque segment vertébral pour aller irriguer les organes, et le retour se fait par le parasympathique, que la réponse est ajustée à la demande. C'est un peu ce qui se passe quand on voit des ampoules monter en série par un électricien. Il y a un fil qui va et un autre qui revient. C'est l'ortho et le parasympathique. Mais l'énergie vitale est condensée dans la substance blanche du cerveau, sous-corticale, et aussi dans celle du cerveau, et aussi dans celle des fibres et des plexus. Donc partout où il y a substance blanche, vous avez un petit peu une accumulation d'énergie vitale. On peut dire que toute la substance blanche est l'accu de la vitalité dans l'individu, avec les réserves héréditaires apportées par les glandes endocrines. Sur cette base-là, nous commençons à y voir clair, et nous savons que des gens qui sont fortement doués en glandes endocrines et en système nerveux ont beaucoup de vitalité. Par contre, s'il y a constamment de la fatigue ou de la dépression, de la neurasthénie ou autre chose, de l'asthénie, de la psychasthénie ou de la physiosthénie, tout ce que vous voulez, enfin cette fatigue totale, ce sujet-là manque de glandes endocrines. Et il est rare qu'on puisse lui en donner, quoi qu'on fasse. Quand l'hérédité est touchée, vous savez, c'est une fin d'espèce, il faudrait que quelquefois mieux arrêter la progression de cette espèce-là. En fait, ça c'est un autre problème. Donc, les glandes endocrines apportent sur le plan héréditaire l'énergie première. Et le système nerveux condense l'énergie recueillie autour de nous, dans l'aura notamment, et à travers le soleil, la lumière et les aliments crus. On vous expliquera tout à l'heure comment on peut augmenter sa force vitale quand on en détruit un petit peu, j'entends. Et que là, les organes, les glandes endocrines et le système nerveux en bonne qualité. Cette force vitale, qu'on pourrait discuter, mais qui est évidente, et vous allez comprendre, se manifeste à nous par certaines formes. Par exemple, lorsque quelque chose ne va pas dans votre organisme, vous voyez apparaître des petits troubles insignifiants, attendez, que nous avons appelés, nous, signaux d'alarme. Un nez qui coule, les pieds lourd le soir. Un peu de migraine, dégoût du travail, quelquefois de l'insomnie, ballonnement, bouche mauvaise, etc. Un peu d'eczéma, tout un tas de petites manifestations que les médecins officiels appellent allergies. L'allergie n'existe pas, c'est des signaux d'alarme d'un corps qui commence à se dérégler. Voilà le premier temps. C'est la force vitale qui manifeste cela. Elle dit attention, la machine est pleine, il faut assurer la vidange. Et la vidange va se faire au deuxième temps si on ne prend pas de précautions. On verra arriver alors les crises d'autodéfense émonctorielle. On verra arriver après la rhinite l'asthme, hein? Après la petite constipation, les diarrhées profuses, après la petite pointe d'eczéma, tout le corps couvert de boutons ou de choses comme cela. Ce sont les crises émonctorielles d'autodéfense qui intéressent. Les quatre émonctoires qui sont les poumons, avec la gorge et les os creux de la face et les muqueuses de la face, c'est-à-dire le nez, les yeux, les oreilles. Les reins, avec sa vessie, le foie, avec sa vésicule biliaire et son intestin, et la peau, avec ses trois glandes de peau, à savoir la couche basale, la sudoripare et les sébacées. C'est les maladies émonctorielles d'autodéfense. Quand un sujet s'encrasse, il va nécessairement, au bout d'un certain moment, faire une manifestation de tempête, on l'appelle tempête neuro-hormonale, de tous ces émonctoires qui vont cracher, qui vont mettre dehors les cols et les cristaux résiduels accumulés par la mauvaise vie. En médecine officielle, on ne croit pas à cela, on prend ça pour une maladie, à tel point qu'on dit l'allergie, c'est-à-dire pour nous, notre signal d'alarme. Le nez qui coule, s'il n'est pas soigné, va faire de l'asthme. Alors en vérité, pour nous c'est très clair, le nez qui coule, c'est la preuve déjà que le foie est insuffisant, que les cols ne passent plus par la vésicule biliaire et qu'elles veulent passer par les émonctoires supérieurs, c'est-à-dire les poumons. Et c'est le nez qui coulera, mais aussi bien l'oreille pour nous, hein, ou un autre exutoire, la peau, l'acné, ou un autre exutoire, le vagin, ou un autre exutoire de même nature, parce qu'ils sont doubles les émonctoires, ne l'oubliez pas. Hein. Nous avons des émonctoires à cols et des émonctoires à cristaux. Et puis nous avons des émonctoires mixtes. Les émonctoires à col, vous les connaissez, hein, c'est la couche de la peau avec sa glande sébacée. C'est les muqueuses pulmonaires et de la face. Voilà des émonctoires à col. Un émonctoire à cristaux, c'est les reins. C'est les glandes sudoripares. Et puis vous avez des émonctoires complets, mixtes. L'intestin, la peau. Mais enfin, ce sont les portes, les pots d'échappement du moteur humain. Donc, autodéfense violente, preuve de la force vitale. Et à chaque fois qu'un sujet, jeune et vigoureux, tombe malade par saturation interne, il fait une crise émonctorielle. C'est le tableau clinique de toutes les maladies de l'enfance. Fièvre, sueur, bronchite, crachat, diarrhée, urine chargée, c'est la grippe. Le tableau de la fameuse grippe. Hein ? Il faudrait presque vous bénir d'avoir la grippe. C'est la preuve que vos forces d'autodéfense fonctionnent bien. Mais il y a mieux à faire. C'est de comprendre les signaux d'alarme précurseurs et d'aider en conséquence pour éviter les crises émonctorielles. Malheureusement, ni le premier temps ni le deuxième n'est compris officiellement. Et on en cherche sans arrêt, à fermer ces portes de sortie de l'organisme. On a une maladie de peau, on se précipite chez le dermatologue, lequel, avec une pommade plus ou moins caustique, va faire taire la peau. Et on rentre chez soi guéri en disant « Je n'ai plus de maladie de peau, je vais mieux, je suis content de mon médecin. » En vérité, il a enfermé le loup dans la bergerie. Vous êtes toujours un malade de la peau, mais blanchi. Si vous toussez, que fait-on? Tout bronchité, que fait-on? Tout de suite, un médicament anti-tout, anti-bronchite. Si vous avez une diarrhée profuse, que fait-on? Tout de suite, un médicament qui va arrêter cette diarrhée. On comprend, on ne vous a pas instruit dans l'autre sens. Mais en vérité, on est en train d'empêcher un organisme de se nettoyer. Sur le plan naturopathique, sur le plan médical, ils sont logiques avec eux-mêmes. Pour eux, il y a une maladie locale qu'ils ne comprennent pas très bien, dont la leur échappe. Mais voyant les symptômes inquiétants, on trouve expérimentalement des thérapeutiques qui vont arrêter le trouble qui vous inquiète, ou qui effraie toute la famille. Mais nous autres, nous n'agissons pas comme ça, et au bout d'un certain temps, 8, 10, 15 jours, tout rentre dans l'ordre, avec une vitalité retrouvée énorme. On a laissé fonctionner les émonctoires, mais on a été assez habile pour ne pas continuer à nourrir pendant ce temps-là et nourrir d'une manière détestable telle que vous le faisiez auparavant. Donc, nous sommes encore très loin de la médecine officielle. C'est regrettable, mais nous ne faisons pas de médecine sur ce plan-là.